Salut, c'est Odile.
Salut, c'est Olivier.
Salut, c'est Nathalie.
À la bonne heure, le mag Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ?
À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine du midi sur Fréquence Mistral. Aujourd'hui, nous allons parler des crues et des risques naturels, sujet que nous avons déjà évoqué dans ce magazine. Mais aujourd'hui, il revient d'actualité car la mairie de la Salle-les-Alpes organise une semaine à l'occasion des 30 ans de la crue du Bess. Donc c'est une commune déjà, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, qui est dans le nord des Hautes-Alpes, dans la vallée à côté de Monnetier-les-Bains, peut-être que certains connaissent plus ce coin-là pour sa station de ski notamment. Et donc, dans cette commune s'est passé cet incident il y a 30 ans. Et de la semaine du 21 au 25 juillet, plusieurs animations sont organisées. Et nous avons le plaisir, pour en parler, d'accueillir Aymeric Salle, maire de la Salle-les-Alpes, et Amandine Crévolin, Penon Conseil, spécialiste des risques naturels. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être parmi nous donc, pour parler de ce sujet important, et puis en même temps, évidemment, de cette semaine-là et de cet événement. Alors aujourd'hui, avant de rentrer dans le vif du sujet, habituellement, nous avons la chronique littéraire. Nous allons exceptionnellement l'écouter à la fin de l'émission aujourd'hui. Vous retrouverez Anaïk et les coups de cœur de la librairie Voyage au bout des livres, bien évidemment. Donc, pour commencer, peut-être est-ce qu'on peut revenir sur ce qui s'est passé il y a 30 ans, donc cette fameuse crue du torrent du Bess.
Oui, alors effectivement, il y a 30 ans, il s'est passé donc cette crue que tout le monde a en mémoire dans le village. Effectivement, il y a 30 ans, il y a eu un système orageux assez important qui a sévi sur le bassin versant donc du torrent du Bess et qui a provoqué donc ce qu'on dit dans le jargon technique, hein, mais une fois de plus, je ne suis pas technicien, donc je laisserai Amandine corriger si je ne me trompe, mais il y a eu donc une lave torrentielle, puisque une vague avec donc des gravats, des arbres et tout ce qu'elle trouve sur son passage a dévalé donc le dénivelé du torrent et est venue inonder le village du Bess, donc qui est sur le versant et donc à proximité du torrent. Et donc, elle a emporté énormément de choses sur son passage, voitures, tout ce qu'elle trouve, malheureusement. On a eu beaucoup de chance parce que il y a 30 ans, il n'y a pas eu de décès. Donc ça, c'est quand même à noter. Et c'est vrai que ça nous rappelle aujourd'hui que ben, ça peut arriver, déjà. C'est pas des choses qui se font que dans les cauchemars. Ce genre de tragédies peuvent arriver. Et donc, d'en parler, c'est une bonne chose pour que les populations puissent savoir quoi faire en fonction de ce type d'événement. Mais effectivement, il y a 30 ans, moi, je soulignerais voilà, que la chance qu'on a eue, c'est qu'il n'y a pas eu de décès. Déjà, une première chose, même si les dégâts matériels ont été importants. Hein. Peut-être que Amandine reviendra sur l'aspect plus technique de la chose, mais en termes de gravats et autres, c'était assez impressionnant et l'événement a été assez majeur pour que 30 ans après, on s'en rappelle encore assez fortement.
Oui, que ce soit célébré. Amandine Crivolin, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe, ce qu'est une lave torrentielle et ce qui s'est passé autour de ce torrent ?
Eh bien, donc là, il y a eu comme l'a dit Monsieur le Maire, il y a eu un gros orage très localisé au niveau du bassin de réception du torrent du Bess, mais pas que, sur quelques torrents adjacents aussi. Et une lave torrentielle, c'est un phénomène qui se produit dans certains torrents, pas dans tous, et pas de façon systématique, où en fait, il y a suffisamment d'eau et de matériaux qui se mettent en mouvement pour que ça ressemble à une lave de volcan, mais sans le magma. Et du coup, ça a une force incroyable. Ça peut aller vraiment vite, puisque ça peut aller plus de 50 km/h suivant les endroits. Et ça charrie énormément de matériaux, avec la moyenne des blocs qui ont été retrouvés dans le torrent du Bess était de 1 mètre cube, sachant qu'on a eu des blocs jusqu'à 7 mètres cubes qui ont été transportés. Donc ça commence à faire du bon bloc.
Ça fait du monde. Et c'est un événement qui arrive sous quelles conditions ?
Alors, bah, c'est très particulier, hein, les laves, à quel moment elles se déclenchent. Il peut pleuvoir de façon très importante et qu'une lave se déclenche pas. Il peut y avoir pour le même niveau d'eau à un autre moment où ça se déclenche. En tout cas, le phénomène de 1995, donc du 24 juillet 1995, était un phénomène de type centennal, c'est-à-dire une chance sur 100 chaque année que ce phénomène se produise. Il y a eu d'autres crues du torrent du Besse depuis, notamment en 2008, mais là, pour le coup, il n'y avait pas eu de lave torrentielle. C'était de l'eau, voilà, avec des débordements qu'on avait pu avoir à certains endroits. En 2008, tout le nord du département avait été vraiment touché. Enfin, tout le département, d'ailleurs, avait été touché par les crues de mai 2008.
Et j'imagine qu'il y a une gestion différente selon si ce sont des laves torrentielles ou une crue, une inondation.
Oui, bah, c'est pas la même chose, hein. C'est-à-dire que quand il y a une lave torrentielle, déjà c'est un événement assez ponctuel, ça arrive, comme l'a dit Amandine, assez vite, c'est quelque chose de rapide, donc il faut réagir assez vite, les dégâts sont pas non plus les mêmes. Quand c'est un cours d'eau qui est en crue, alors nous ça se produit souvent quand on a deux facteurs, c'est-à-dire de la neige en altitude qui reste assez longtemps au printemps, un événement aussi pluvieux assez important qui a tendance, alors je crois qu'en 2008 c'était ça, on avait eu pas mal de pluie mais c'était resté sur plusieurs jours, du coup ça accélère en plus la fonte du manteau neigeux et forcément ça vient alimenter les cours d'eau, comme ça s'est produit d'ailleurs un petit peu l'année dernière sur cette fois-ci les rivières, mais effectivement c'est pas du tout la même gestion puisque quand un torrent est en crue ou une rivière par exemple, en fait le débit continue pendant un certain temps d'être important, alors que quand c'est un phénomène de lave torrentielle, c'est un phénomène comme je vous le dis qui est assez soudain en fait et qui intervient de manière très rapide, donc c'est là où c'est pas du tout la même chose en termes de gestion.
En 1995, les témoignages ont montré qu'en 15 minutes, on avait pris 5 mètres de matériaux, enfin 5 mètres de variation. Donc voilà, la cinétique, effectivement, est rapide.
Oui, très rapide. Très, très rapide. Et donc, vous y étiez, vous je ne sais pas, monsieur le maire, vous étiez déjà là-bas, vous venez de ce village?
Oui, alors effectivement, je suis enfant du pays, donc et la famille de mon papa est originaire du village du Besse, donc j'ai mes racines dans ce village. Et d'ailleurs, bon, à l'époque j'avais 7 ans, donc c'est vrai que c'est pas forcément, je me rappelle pas forcément tout de manière très précise, mais je me rappelle très bien sur la maison de ma grand-mère qui était au village du Besse derrière le four banal. Je me rappelle très bien de la marque de la vague qui était passée. Et c'était assez impressionnant puisqu'elle était très haute. Bon, plus à 7 ans, c'est forcément encore plus haut, mais c'était assez important et ça faisait assez froid dans le dos. Et ça m'avait vraiment marqué. J'ai encore cette image de la trace de la vague debout sur le mur de la maison de ma grand-mère. Et c'est assez marquant.
Et c'est un phénomène qui restait dans les mémoires locales, alors, pour les habitants?
Oui, je crois que dans la vie d'un village, vous avez, y a des choses comme ça. Dès que vous avez des événements un peu majeurs comme ça qui se produisent, quand c'est des incendies, quand c'est des choses comme ça, on se rappelle. Une crue de ce type, forcément, ça a marqué. Ça marque aussi toute la commune, forcément, puisque chacun se rappelle certainement d'avoir été après donner un coup de main, donner sa paire de bras pour aller déblayer, pour aller aider le voisin pour déblayer les gravats, la boue et tout ce qui s'ensuit. Donc oui, forcément, c'est marquant dans les esprits pour tous ceux qui l'ont vécu.
Et c'est cette période de reconstruction qui s'est passée derrière, comment a-t-elle été vécue? Que s'est-il passé?
Alors, comment elle a été vécue? Déjà, la première chose, comme vous avez les rues remplies de boue, donc le premier réflexe, c'est d'essayer de déblayer au maximum. Hein. C'est la première chose. Après, on constate aussi, en déblayant, les dégâts en fonction de ce qu'il y a eu. Alors, la chance qu'on a, si ça peut être une chance, c'est que dans ces villages, nos anciens construisaient des maisons très solides, avec des murs plutôt épais, et en général, alors il peut y avoir des dégâts, hein, ça ne veut pas dire que rien ne se passe, mais en général, la structure du bâti n'est pas forcément très, très endommagée, donc déjà, ça permet d'avoir assez peu quand même de maisons qui soient rasées par ce phénomène. Je ne crois pas que ça ait été le cas. On a eu, alors je sais qu'à l'époque, sur une partie du parking au-dessus du jeu de boules du village, il y avait ce qu'on appelle un parc-abri, qui est une structure un peu plus légère. Et bon, bah, cette structure, elle a disparu à la suite, puisqu'elle a été démontée. Donc à l'époque, elle avait été, elle, très endommagée. Mais mis à part ça, c'est vrai que les maisons de ces vieux villages sont quand même des maisons très solides. Et heureusement, et du coup, elles arrivent quand même à bien encaisser le choc, même si, bon, il faut déblayer la boue, l'eau, les gravats, ça reste assez marquant et assez important comme travail derrière.
La même chose, effectivement, sur des maisons modernes, on aurait eu un village qui aurait été vraiment très impacté, l'habitat très impacté. Là, il faut savoir qu'il y a eu à peu près 100 000 mètres cubes de matériaux qui sont arrivés et on en a déblayé 50 000 mètres cubes. 50 000 mètres cubes, pour avoir une notion de quantité, c'est l'Arc de Triomphe. Donc ça fait quand même beaucoup de matériaux qui ont été enlevés. Et ce qui est vraiment flagrant et frappant dans ces événements-là, c'est la solidarité et que tout le monde est venu, tout le village entier est venu pour donner la main, pour déblayer. Alors il y avait l'armée à cette époque, puisqu'il y avait encore les militaires à Briançon qui étaient venus, et plus les habitants. En 3 semaines, le village était complètement nettoyé. Parce qu'en plus, c'était important pour les gens du village, puisqu'il y avait la fête du village 3 semaines après. Et c'était important pour tout le monde que pour la Saint-Roch, le village soit déblayé. Mais ça a été du travail 24 heures sur 24 pendant 3 semaines avec des centaines de bras.
Mais ils ont réussi, alors.
Et ils ont réussi.
Ils ont réussi. Et donc, de cet événement, quel héritage en garde le village aujourd'hui ?
Quel héritage en garde le village aujourd'hui ? Alors ça, c'est une bonne question.
Je crois
qu'effectivement, garder à l'esprit déjà que dans ces événements-là, il y a un esprit de solidarité, un élan de solidarité qui naît, et ça c'est assez important en termes d'héritage, parce qu'on voit que ça resserre aussi les liens dans un village entre les habitants quand ils font face à ce type d'événement. Donc ça, je dirais que c'est une phase d'héritage assez importante. Après, il y a l'héritage un peu plus technique, je dirais, qui est celui des infrastructures, puisque le torrent, il a été très aménagé depuis. La commune a tout endigué ses berges. Il y a eu une plage de rétention qui a été créée en amont du torrent. Donc il y a aussi cet héritage d'infrastructures autour de ce torrent pour éviter que ça... ou en tout cas pour éviter que les effets soient les mêmes si ça venait à se reproduire, parce qu'on n'évite pas le risque, hein, on peut pas le supprimer, hein, il existe et il est présent. Mais effectivement, on essaye en tout cas d'avoir des infrastructures, des aménagements qui font que si le risque venait à se reproduire, en tout cas, le torrent ne se comporterait certainement pas de la même manière, même si ça reste très compliqué d'avoir une solution magique. Il y en a pas, malheureusement, et on ne supprime pas le risque. On dit souvent que le risque zéro n'existe pas, et c'est une réalité. Tous les risques existent, il faut les prendre en compte. On essaye d'avoir des aménagements qui peuvent un petit peu y pallier, mais ça, c'est effectivement... Oui, c'est une part d'héritage d'avoir ces infrastructures, je dirais.
Et justement, on va parler donc de ce que vous mettez en place dans la commune et notamment de cet événement. Ce sera juste après la pause musicale. Dis-le-moi,
C'est Olivier.
C'est Nathalie.
À la bonne heure, le mag Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ? À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr.
Bienvenue au magazine régional Sud-Est de Fréquence Mistral.
Et dans le magazine aujourd'hui, nous parlons, à l'occasion des 30 ans de la crue du Besse, des crues, des inondations, des risques naturels, avec Émeric Salle, maire de la Salle des Alpes, et Amandine Crévolin de Penon Conseil, spécialiste des risques naturels. Alors, nous avons parlé donc de cette fameuse crue il y a 30 ans, ce qu'il s'était passé, et donc, c'était il y a... Donc, je disais 30 ans, et il y a un héritage quand même de cet événement, des célébrations qui ont eu tous les 10 ans, et là, cette année, ce sera les 30 ans avec une semaine de sensibilisation. On va y revenir. Avant cela, j'aimerais quand même vous demander, monsieur le maire, quelles sont les actions que vous mettez en place à la commune pour faire face aux risques naturels ?
Alors, déjà, il faut savoir que c'est une responsabilité du maire, donc la responsabilité qui pèse sur les épaules de la fonction est très importante, donc... Forcément, ça motive à être prêt et en tout cas à respecter les obligations qui sont les miennes en la matière. En 2019, nous avons commencé par reprendre ce qu'on appelle le plan communal de sauvegarde, le PCS, qui est un document, vous voulez expliquer, qui prévoit justement tout ce qui doit être mis en place en fonction de la prise en charge de ces risques lorsqu'ils interviennent. Donc c'est finalement la mise en place opérationnelle de comment on fait. Il y a donc le maire est directeur des opérations de secours en la matière. Comment aussi on arrive à communiquer entre les secours, justement, les personnels de la mairie, chacun a une place bien donnée, et c'est comment on gère en fait la situation de crise en la matière pour pouvoir pallier, je vous le disais, à la responsabilité qui est celle du maire de sauvegarder donc les populations face à ces risques.
Et comment vous le mettez en place pour cela? Je pense notamment à Amandine Crévolin qui est présente. Est-ce que vous faites appel à des spécialistes ou c'est quelque chose que vous faites vous-même?
Non, alors justement, on a pris effectivement la tâche d'Amandine qui est une spécialiste des risques. Parce que on n'est pas. Alors quand on est maire, il faut qu'on ait énormément de. Il faut être très polyvalent parce qu'il faut savoir beaucoup de choses, mais effectivement, quand on n'est pas spécialiste des risques, on prend la tâche de spécialistes, et c'est le cas d'Amandine. Donc, on a pris son attache pour pouvoir remettre ça en place. Depuis le moment où on a revu notre plan communal de sauvegarde, nous avons mis en place aussi des exercices chaque année. C'était important pour nous de pouvoir se mettre en situation de crise. On simule un risque, ça peut être nuage toxique, ça peut être d'autres risques en la matière, c'est pas forcément toujours une crue, puisqu'en montagne les risques sont très nombreux. Et on se met en situation et comme ça, ça permet d'avoir un certain nombre d'automatismes pour pouvoir pallier à ça. La commune, par exemple, s'est dotée de tout ce qu'elle a et de tout ce qui doit être nécessaire en la matière. On doit avoir une salle qui soit équipée, on doit avoir des lipicos si jamais vous avez des personnes qu'il faut pouvoir reloger face au risque. C'est aussi avoir les denrées nécessaires en cas de problème. C'est toutes ces choses-là, si vous voulez, depuis maintenant 6 ans, qu'on a essayé de mettre en place pour pouvoir être le plus près possible face à ce type d'événement. Et ensuite, nous avons aussi travaillé sur un autre document qui s'appelle le DICRIM, qui, lui, en fait, identifie et explique les différents risques qui sont présents sur le territoire de la commune pour que les habitants aient connaissance, par exemple, justement, d'un risque de crue, un risque d'avalanche, ce type de risques qui sont assez importants. Ça peut être chute de blocs aussi en montagne. On l'imagine pas toujours, mais les montagnes bougent et il y a certains versants où il y a des chutes de blocs. Hein. C'est notamment ce que rencontrent pas mal les gens, je dirais, dans les procédures d'urbanisme. Mais là, cette fois-ci, c'est par rapport au plan des risques qui est établi par les services de l'État. C'est un peu la même chose, mais là, c'est dans l'opérationnel pour pouvoir informer les populations et, je vous le disais, dans le but d'au mieux les sauvegarder lorsque ces risques interviennent.
Et c'est un document donc, qui est accessible à tout le monde, publiquement, que tout le monde peut consulter.
Oui, bien sûr, tout à fait.
Et c'est un document aussi que vous réalisez avec des études qui ont déjà été faites ou vous réalisez des études pour avoir ces informations?
Le DICRIM, là, donc le document d'information communale sur les risques majeurs, il a vraiment pour vocation à informer la population des risques présents. Donc en fait, et des manières de s'en prémunir. Donc en fait, on s'appuie sur les études déjà présentes. On s'appuie aussi sur ce qui a été choisi de mettre en place dans la boîte à outils du plan communal de sauvegarde. Ce document, il est disponible dans les mairies qui sont soumises à ça, et sur les sites internet aussi des mairies. En tout cas, sur le site de la salle, il est disponible. Et le choix a été fait de faire un document d'information communale sur les risques majeurs qui soit similaire entre les 3 communes de la Guisane pour le Monnetier-les-Bains, la Salle des Alpes et Saint-Chaffré, parce qu'il y a une similarité dans les risques. Et voilà, le choix des 3 communes a été de le faire, de simplifier le message en tout cas.
Et dans les plans d'action, c'est aussi vu en collaboration avec les autres communes ou c'est vraiment propre à chaque commune?
Alors, je dirais que ça dépend de l'ampleur de l'événement. Forcément, en fonction de son ampleur, ça peut être élargi même à la communauté de communes, hein, carrément. Là, dans le cadre d'une crue du torrent du Besse, forcément, ça n'impacte que la commune. Donc là, il n'y a pas lieu d'aller collaborer avec nos voisins. Mais effectivement, comme ça a été le cas l'année dernière avec la crue de la Guisane, même s'il n'y a à proprement parler pas eu de dégâts sur l'ensemble de la vallée, même si malheureusement ça n'a pas été le cas pour nos voisins. Il y a eu quelques dégâts matériels, mais ça n'a pas nécessité de mettre en place ces PCS. Et du coup, en fonction de l'ampleur, effectivement, on peut être amené à collaborer. Mais en tout cas, le PCS, là, c'est plutôt pour les risques propres à la commune.
Donc là, ce sont les plans d'action, mais à l'occasion des 30 ans de la crue du Besse, vous organisez une semaine de sensibilisation avec des événements divers et variés. On va y revenir pour parler de l'événement et pas que des risques actuels. C'est quels enjeux existent autour de cette sensibilisation des populations ?
En tout cas, je dirais l'objectif poursuivi par cette semaine de sensibilisation, c'est d'avoir une culture du risque, que nos habitants aient cette culture du risque, déjà la connaissance de ces risques, parce que c'est pas toujours le cas, qu'ils puissent aussi s'exprimer sur ces risques-là et qu'on puisse avoir une communication pédagogique autour de ça, sans toujours leur dire attention et avoir un effet un peu anxiogène. L'idée, c'est pas que les gens, chaque soir, aient peur de s'endormir ou que dès qu'ils entendent le tonnerre ou la foudre, ils appellent vite la mairie en se disant « Ouh là là, j'ai l'impression que ça va déborder ». Non, c'est pas ça du tout. Mais c'est en tout cas d'avoir cette culture du risque et justement, lorsque ça se produit, de pouvoir avoir les bons comportements parce qu'on y est un petit peu préparé grâce à ça. Donc c'est autour de ça qu'on a mis en place cet événement, parce qu'en fait aussi cette information elle se fait toujours plus facilement par des actes pédagogiques ou ludiques que si on vient toujours faire peur ou expliquer les choses de manière très brute et sans forcément pouvoir déjà laisser aussi les gens s'exprimer.
Oui, et puis la semaine, lorsqu'on lit la programmation, c'est plutôt joyeux, ludique, pas du tout pesant. Après, c'était il y a 30 ans aussi. C'est un événement qui a eu lieu il y a longtemps. C'est un événement que vous avez célébré auparavant, que la commune a célébré auparavant de façon différente.
Oui, il y a aussi forcément une forme de devoir de mémoire avec ça. C'est sûr que ça nous permet aussi de rafraîchir un peu les esprits sur ce qui a pu se produire. C'est vrai que dans le quotidien de chacun, c'est le type d'événement. Même si, comme on disait tout à l'heure, en termes d'héritage, c'est vrai que les gens ont toujours cet événement en tête. Il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire qu'on peut avoir tendance un peu à l'oublier dans notre quotidien et à se dire que finalement, c'est des risques que ça s'est passé il y a 30 ans, c'est lointain et que ça peut plus se produire, chose qui n'est pas vraie. D'autant plus aujourd'hui, à l'heure du changement climatique et ces dérèglements qui font qu'on a des événements de plus en plus violents et on le voit. Donc effectivement, l'objectif, il est aussi là, c'est-à-dire de garder en tête aussi ce type d'événement parce que ça peut se produire. Malheureusement, ça se reproduira certainement. On ne sait pas quand, mais l'idée, c'est d'être le plus préparé à ça.
Et sensibiliser permet de se préparer.
Oui, complètement. On attend toujours que ça soit les pouvoirs publics, les mairies, les pompiers, les gendarmes, les militaires qui viennent aider. Or, la première chose à faire, c'est que les citoyens aient des comportements d'auto-sauvegarde. Ne pas se mettre en danger, ne pas mettre les autres en danger, avoir des bonnes réactions et se préparer, comme ce nom l'a dit, que ça se prépare, c'est-à-dire préparer des choses à la maison pour pouvoir rester quelques jours, quelques heures en autonomie à la maison, même si on n'a plus d'eau, plus d'électricité. Et ça sert au quotidien.
Et cet événement, vous l'avez préparé en collaboration, donc ensemble, la mairie, avec vous, Amandine Crévolin, aussi en tant que spécialiste, c'est ça ?
Oui, c'était une demande de la mairie de dire, on a commémoré de différentes façons les 10 ans, les 20 ans. Pour les 30 ans, qu'est-ce qu'on peut faire ? L'idée là, c'est aussi de donner une autre vie au torrent. D'apporter et d'avoir un nouveau regard sur ce torrent où soit on s'en sert pour arroser éventuellement, soit il nous fait des misères, on va dire, et en fait c'est quelque chose qui vit, et l'idée c'était de lui redonner sa place au milieu de notre si le village du Besse il a existé, c'est parce qu'il y avait le torrent autour et qu'on s'en servait historiquement depuis toujours.
Donc, qu'avez-vous prévu ? Quelle est la programmation de cet événement ? Comment l'avez-vous pensé ?
Alors, ça a été pensé avec les services de la bibliothèque et donc avec les spécialistes aussi, comme Amandine. Donc, il y a un programme riche, puisqu'il y a à la fois des ateliers d'écriture, il y a aussi des stages d'aquarelle. Ça va passer par un spectacle pour pouvoir évoquer le sujet de manière un peu plus décalée. Et puis, il y aura aussi des moments avec avec des jeux de rôle et formation premier secours aussi. Donc là, c'est pour se mettre dans le bain. On espère ne jamais s'en servir, mais ça peut aussi être assez instructif et intéressant. Et puis, à noter la soirée débat sur la compréhension de ce qui s'est passé et de préparer l'avenir. Donc, ça sera le 22 juillet à 20h. Donc, à la salle de la montagne, à la salle des Alpes, sur la commune. Donc, pour pouvoir échanger, il y aura des spécialistes, puisqu'il y aura Météo France, le RTM, il me semble. Donc, voilà, tout plein de techniciens aussi qui pourront débattre. Et puis, bien sûr, la parole sera donnée au public pour pouvoir s'exprimer sur ces sujets-là, parce que c'est ça aussi qui est important. C'est pas de se dire on comprend les risques, on sait ce que c'est, on vous explique, mais c'est aussi de laisser la parole, parce que ça permet aussi d'appréhender la chose et de voir comment les gens l'appréhendent.
Dans ce travail, dans cette volonté de sensibilisation, l'idée, c'est de sensibiliser le maximum de public. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a eu des spectacles qui ont été faits, que la mairie a financé des spectacles à destination des scolaires. Où les autres communes ont été invitées également à participer. Donc ça, c'était sur le mois d'avril. Et les enfants ont pu aussi faire du travail d'écriture dessus. Ils ont fait également de la peinture. Donc en fait, l'idée là, c'est grâce à cette semaine, mais plus largement finalement à cette année, on touche le maximum de personnes de façon à développer cette culture mémoire du risque pour aussi bien les enfants que les citoyens, les locaux, les résidences secondaires, les touristes, puisque aussi une partie du travail est avec l'Office du tourisme. Donc on touche un panel le plus large possible de personnes, parce que l'idée, d'une manière générale, sur la sensibilisation, c'est la commune de La Salle qui est porteuse et qui génère ce programme vraiment qui est très riche, mais les citoyens bougent. Et l'idée, c'est que le maximum de personnes soient informées pour pouvoir avoir le minimum de dégâts humains quand il y a un événement.
Et en quoi, par exemple, des ateliers aquarelles, en exemple de l'événement, de la semaine, en tout cas d'anniversaire, aident à la sensibilisation ?
Je crois que Amandine y a un petit peu répondu, mais effectivement, en fait, quand vous abordez les choses avec quelque chose aussi qui vous plaît, voilà, par exemple dessiner, mais sauf que si on le fait sur le thème des crues torrentielles et particulièrement de l'événement de la crue du Besse qui s'est produit en 95, ça a tendance à plus nous marquer. C'est-à-dire que, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, qu'on a mis en place, le dit crime, des documents qui sont... alors, on essaye de les rendre ludiques, mais c'est des choses qui sont très administratives. Et ça peut pas passer que par cette communication-là, qui est très formelle, très... voilà, peut-être que la personne va être plus marquée parce qu'elle a participé à un atelier aquarelle à cette époque et que, finalement... Elle va se rappeler des choses qui avaient été aussi dites dans le cadre de cet événement sur la semaine. Donc, je pense que c'est une bonne manière aussi de marquer les gens de manière différente, que ce soit les plus jeunes aussi, ou toutes les personnes, parce que juste lire un document, c'est pas la même chose que quand vous participez à ce type d'événement.
L'aquarelle, pourquoi aussi peut avoir de l'intérêt, c'est que quand on parle avec les spécialistes d'une manière générale des risques, il y a vraiment une question de sensibilité, c'est-à-dire on sent l'événement. On le sent olfactivement, on le voit arriver, on l'entend. Et on s'est dit, travailler avec les sens aussi et travailler avec les couleurs, c'est tout la chance qu'on peut avoir avec la peinture. C'est travailler avec ces différentes couleurs, travailler avec le mouvement, voir un peu les reflets qu'il peut y avoir. Et ça, finalement, de travailler en peinture en amont, finalement décontextualiser d'une crise, l'idée c'est d'avoir derrière cette sensibilisation, parce que nous on va quand même arriver sur le stage, aller les voir et voir le lien qu'ils pourront avoir, mais de dire regardez le torrent, vous rappelez quand vous avez peint, quand c'est bleu, c'est que ça va, par contre quand ça commence à devenir noir, quand vous y avez mis de la matière, si vous le voyez en vrai, soyez prudent quoi.
Très bien. Et donc ça, c'est un événement qui a lieu du 21 juillet au 25. On va finir tout à l'heure en rappelant quand même où trouver les informations avec vous, Amandine Crévolin. Je pense qu'il est temps pour vous, monsieur le maire, de nous quitter. Vous avez un impératif. Donc, on vous laisse là-dessus et nous, on va écouter la chronique littéraire ensemble avant de finir cette émission. Merci encore, monsieur le maire.
Merci, au revoir.
À la bonne heure, le mag Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ? À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr.
Bienvenue au magazine régional Sud-Est
de Fréquence Mistral.
Et dans le magazine aujourd'hui, nous avons donc parlé de l'événement organisé par la Salle des Alpes, par la commune, la mairie. L'événement qui s'intitule, on l'a même pas dit dans cette émission, Mémoire d'eau, mais qui l'eût cru ? Quand même, ça vaut le détour, faut le dire ce titre. Et donc un événement qui a lieu du 21 juillet au 25 juillet à l'occasion des 30 ans de la crue du torrent du Besse, qui est donc à côté du village. Donc nous avons parlé de cet événement, nous avons parlé avec aussi monsieur le maire qui était présent, qui nous a déjà quitté, de l'organisation aussi, des plans d'action, de l'organisation de cet événement en particulier, auquel a participé Amandine Crivolin, qui est toujours avec nous, de Penon Conseil, spécialiste des risques naturels. Alors quand même, pour terminer cette émission et ce sujet, est-ce qu'on pourrait rappeler où trouver les informations, comment s'inscrire aux événements, les informations pratiques ?
Alors pour les informations pratiques, vous pouvez trouver toutes les informations sur le site de la Salle des Alpes, ou alors vous pouvez appeler à la mairie, et notamment à la bibliothèque, puisque c'est elle qui a porté ce dossier, au 04 92 24 83 75. Et voilà, une partie de ces manifestations sont sur inscription parce qu'on ne peut pas être trop nombreux. Et puis sinon, vous retrouvez également toutes les informations sur le site de l'Office du tourisme de Serre-Chevalier.
Et ce sont des événements gratuits ?
Oui, ce sont des événements qui sont offerts par la commune.
Par la commune.
Vous avez donc les stages d'écriture, les ateliers d'écriture, pardon, les ateliers de peinture, les spectacles, les jeux de rôle, voilà. Tout est offert par la commune parce que c'était important pour eux de vraiment tout mettre en œuvre pour sensibiliser la population sur ces risques.
Un gros événement. Et en tout cas, si celles et ceux qui nous écoutent sont intéressés par la question de la gestion des risques, Amandine, vous étiez déjà venue dans notre magazine du 11 février 2025 de cette année pour en parler de façon plus générale. Hein. Là, c'était intéressant parce qu'on a eu un cas concret. Et c'est écoutable sur le site internet de Fréquence Mistral Briançon, dans le reportage Amandine Crévolin. Pour peut-être se renseigner sur vous aussi, sur Penon Conseil, on vous retrouve sur votre site internet ?
Oui. Que je tiens pas forcément suffisamment à jour, parce que je passe plus de temps sur le terrain, à être à côté des collectivités et des gens que de passer du temps sur un site internet, mais ça fait partie de mes résolutions.
En tout cas, il y a vos contacts, coordonnées, voilà, pour celles et ceux que ça intéresse. Eh bien, merci. Merci à monsieur le maire qui est parti. Merci à vous, Amandine Crévolin, et belle journée à toutes et tous.
مش هسمح لك تأذي مشاعري أو تتسلق بسيرتي كتير مش هسمح لك تبقى كرامتي وسيلة رخيصة للتعبير مش هسمح لك تأذي مشاعري أو تتسلق بسيرتي كتير مش هسمح لك تبقى كرامتي وسيلة رخيصة للتعبير